histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont laissé de vives cicatrices dans les familles. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la Deuxième Guerre mondiale et ses conséquences dans notre région, le Tarn, et particulièrement le nord du Tarn, autour de Carmaux. Donc le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclaraient la guerre à l'Allemagne. La mobilisation générale fut décrétée aussitôt par voie d'affichage et dans les jours qui suivirent, dans tous les villages, ce fut le départ au front de nombreux hommes. Le Garric, commune limitrophe de Carmaux, n'a pas échappé à cette mobilisation, ni plus tard à l'occupation allemande et à toutes ses conséquences. Bonjour Jean-Louis Canac.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre sur cette période sombre de notre histoire avec ce titre « La mémoire des ombres, mon village, le Garric et l'occupation allemande ». Mais tout d'abord, avant de présenter ce livre, c'est à vous que je demande qui êtes-vous, Jean-Louis Canac ?
Oui, alors je m'appelle Jean-Louis Canac, je suis retraité de l'éducation nationale, je suis professeur agrégé de chimie et j'enseignais en classe BTS au lycée Jean Jaurès de Carmaux.
Alors qu'est-ce qui vous... Oui, pardon ?
J'habite le Garric et mes racines sont profondes puisque j'ai pu relever 11 générations de mes ancêtres sur ces terres.
Alors, je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui a motivé ce désir d'écrire ce livre sur le Garric ?
Alors, lors de la libération de Carmaux en août 1944, les principaux combats entre les maquis et les troupes allemandes eurent lieu sur notre commune. J'ai donc éprouvé le besoin de témoigner de ces événements, d'autant plus que mon père faisait partie du maquis Le Noir, lequel stoppa les troupes nazies par la côte du Garric. Il refusait de parler de ces 7 mois de clandestinité lors de l'occupation nazie. Je compris ensuite qu'il avait très mal vécu, en particulier les rivalités entre les différents groupes de maquisards, rivalités essentiellement d'origine politique.
Et rivalités dont nous parlerons un petit peu plus tard. Alors pourquoi avoir choisi ce titre à ce livre, La mémoire des ombres ?
Alors, mémoire, car ce sont surtout les témoignages des Garricoises et des Garricois, aujourd'hui âgés de 90 ans et plus, qui me permirent de comprendre les souffrances, les privations et surtout les humiliations que subirent tous ces gens durant les longues années d'occupation. Tous ces gens qui risquèrent leur vie pour lutter contre l'occupant, pour libérer Carmaux, donc en août 1944, puis le Tarn et enfin la France entière, sont malheureusement trop souvent restés dans l'ombre. Ils étaient oubliés, car effectivement, ils faisaient ombrage aux politiques qui se sont efforcés de récupérer les honneurs qui revenaient normalement à ceux qui avaient combattu. D'où mémoire et ombre.
Alors... Avant de parler justement de ces ombres dont vous développez vraiment toutes les actions dans votre livre, vous pouvez peut-être évoquer rapidement les circonstances de l'entrée en guerre de la France en 1939 et puis tout ce qui a suivi, la débâcle, l'occupation allemande.
Alors, le traité de Versailles de 1919 suscita rancœur et désir de reconquête chez les peuples allemands, autrichiens, hongrois et bulgares. C'est ainsi que dès août 1934, Hitler devient le Reichsführer avec pour seule devise un peuple, un empire, un chef. Dès son arrivée au pouvoir, il créa une nouvelle armée, la Wehrmacht, une nouvelle aviation, la Luftwaffe. Toute l'économie allemande se tourna alors vers la guerre. Et pour éviter un nouveau conflit, les chefs d'État français et britanniques acceptèrent. L'invasion de la Pologne par les troupes du Troisième Reich en septembre 1939 entraîna l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Le combat fut de courte durée. En quelques mois seulement, la France, mal préparé pour cette guerre, fut vaincu. Le 22 juin 1940 fut conclu l'armistice entre le Troisième Reich et les représentants du gouvernement français de Philippe Pétain. L'occupation de la France au terme de l'armistice divisa le territoire en plusieurs zones d'occupation. Une ligne de démarcation sépara la zone d'occupation nord de la zone libre au sud. L'occupation sur le pourtour littoral fut appelée zone interdite dès 1941. C'est dans cette zone que fut édifié le mur de l'Atlantique, témoignage cruel de la collaboration des grands groupes industriels français avec les nazis. Au sud, les armées italiennes occupèrent les départements frontaliers jusqu'en novembre 1942.
Donc le Garric, lui, au début, était dans la zone qu'on appelait zone libre. Hein, oui, c'est bien ça.
Tout à fait.
Alors, donc peut-être que nous en venons maintenant à votre village, le Garric, pendant le conflit. Oui. Donc, comme il était en zone libre, la population du Garric voit affluer des réfugiés.
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, depuis le mois de juin 1940, on me raconta qu'un flot de camions, de voitures et de motocyclettes, charriant des gens affamés, malades, parfois mourants, déferla sur notre région. Ils arrivaient d'un pays en débâcle. La France venait de perdre 42 départements totalement occupés par les Allemands, soit 55% de sa population. Dans notre région arrivèrent surtout des Belges, des Alsaciens, des Lorrains. Un ancien du Garric me racontait « On en voyait passer des centaines au coin du lac à Carmaux et la mairie ne savait plus où les loger. » Il fallait apporter à tous ces gens le gîte, le couvert et surtout le réconfort moral. C'est ainsi que j'ai relevé dans les archives municipales du Garric une directive préfectorale demandant au maire de dresser la liste des logements disponibles pour l'hébergement des réfugiés. J'ai relevé également la délibération suivante du conseil municipal datée du 4 août 1940. La commission d'assistance enregistre et approuve l'inscription à l'assistance publique de 5 personnes, dont je tairai les noms, réfugiés belges pour 4 d'entre eux et le dernier du Nord, une dame qui venait du Nord de la France. Je dois noter que parmi ces réfugiés, certains se sont installés dans Carmaux et à la libération, ils y sont restés. Pour certains, il s'agissait d'ouvriers spécialisés venus de Moselle, et ils permirent la création d'une usine dans le Carmozin qu'on appela par la suite la cyanamide, plus connue à Carmaux sous le nom d'usine Salle et Moselle.
Donc c'est une entreprise qui a encore ses racines dans le Carmozin.
Maintenant,
à l'heure actuelle,
elle a disparu malheureusement. Elle a disparu puisque la matière première était le charbon. Mm-hmm. C'était une usine de synthèse qui fabriquait en particulier des engrais nitrés.
Donc ces réfugiés qui arrivaient étaient quand même bien accueillis par la population.
Oui.
Vous avez des témoignages de
tout à fait. Je pense que les réfugiés français ou belges ont été relativement bien accueillis. Par contre, ceux qui le furent moins, ce furent les réfugiés espagnols, qui, après avoir combattu pendant 4 ans la guerre civile en Espagne, ont été d'une part très mal accueillis sur nos plages méditerranéennes. Argelès en particulier.
Oui.
Et justement,
parqués,
effectivement. Ces camps n'étaient pas des camps d'internement ou de concentration, mais c'était surtout des camps d'internement.
Et ici, donc, il en est arrivé aussi, ici,
oui,
sur la région.
Oui, effectivement, la mine.
Et là, ils n'étaient pas bien accueillis.
Ben, c'est-à-dire que très rapidement, ils ont perdu la nationalité française. Pétain leur a revu les anciennes naturalisations et il a supprimé pour des Polonais, pour des Italiens, pour des Espagnols, la nationalité française. Donc ces gens-là étaient devenus des étrangers. Et ça explique par la suite, ils aient intégré très rapidement des maquis.
Alors justement, on va parler tout à l'heure des maquis, mais il y a eu d'abord la création des fameux chantiers de jeunesse. Alors pourquoi ces chantiers de jeunesse ont-ils été créés ?
Oui, j'ai toujours été surpris par des anciens de ma commune qui me disaient bah, « Tu vois, moi j'ai fait mon chantier de jeunesse à tel endroit. » Moi, je me posais la question, mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, les chantiers de jeunesse ont pris naissance juste après l'armistice du 22 juin 1940. Effectivement, le service militaire a été supprimé. Alors, que faire de tous ces jeunes ? D'une part, ces jeunes soldats qui se sont vus donc
démobilisés.
Et d'autre part, ces jeunes des classes 42-43 qui avaient l'âge de partir au service militaire. Alors, qu'en faire ? Eh bien, c'est un général de l'armée française qui s'appelait Joseph de la Porte du Teil qui eut l'idée, il était épris de scoutisme et il a eu l'idée de mettre sur pied ces chantiers de jeunesse.
Alors quel était le but d'un chantier de jeunesse ?
Ben, surtout, avant tout, d'occuper ces jeunes.
Alors, en donc, les faisant travailler ?
Oui, alors ils travaillaient généralement dans des... Enfin, oui, ils avaient des travaux essentiellement forestiers. Soit le tracé de chemin dans les forêts et surtout l'abattage des arbres pour la fabrication de charbon de bois qui permettait par la suite d'alimenter les véhicules qui marchaient à ce moment-là au gazogène puisqu'il n'y avait plus d'essence.
Et il y avait aussi donc à ce moment-là des prisonniers de guerre, des prisonniers, donc par exemple au Garric, il y avait des hommes qui étaient partis à la guerre, qui avaient été faits prisonniers.
Oui.
Et il y avait un système d'échange qui avait été institué.
Alors effectivement, on a eu 1,8 million de jeunes soldats français prisonniers en Allemagne. Le gouvernement français créa ce qu'on a appelé la relève. Cette relève consistait à l'échange de un prisonnier français en Allemagne contre trois ouvriers acceptant d'aller travailler dans les usines allemandes.
C'était donc une façon
d'échanger,
de faire venir des jeunes Français pour travailler en Allemagne.
Ah, effectivement,
c'était surtout ça,
dans la mesure où l'Allemagne manquait de main-d'œuvre. Tous les jeunes se trouvaient sur les fronts de combat.
Et manquer aussi certainement de matières premières, puisque les mines de charbon de Carmaux avaient été aussi réquisitionnées. Enfin, le charbon était réquisitionné.
Oui, le charbon était réquisitionné. Il y a eu bien sûr des cartes de ravitaillement. Mais mon village, le Garric, faisant partie de la zone rurale, n'a pas eu droit à ces cartes d'alimentation en charbon. Et certains ancêtres me racontaient qu'ils étaient dans l'obligation d'abattre les arbres fruitiers du jardin pour alimenter la cuisinière.
Et alors pourquoi eux n'avaient pas, pourquoi sur la commune du Garric, il n'y avait pas de ticket pour avoir du charbon ?
Alors
c'était trop près
parce
des
que,
mines.
Non, pas du tout, pas non. du tout. Il est évident que des tickets de rationnement du charbon avaient été distribués un peu partout, mais tout le monde, même les Carmozins, n'ont pas eu nécessairement la possibilité d'avoir ce charbon. Pourquoi ? Parce que ce charbon était exporté pour les usines qui travaillaient pour les Allemands.
Mais les ouvriers, enfin les mineurs qui allaient à la mine, eux, s'arrangeaient parfois pour prendre du charbon dans leur musette. Vous décrivez ceci dans votre livre.
Oui, ils prenaient surtout ce qu'ils appelaient des rauzelles. C'était des morceaux de bois que certains mineurs, dont la spécialité était de fabriquer des galeries, de soutenir des galeries,
oui.
ils tronçonnaient, certainement à la scie, ils n'avaient pas de tronçonneuse. Hein. Donc ils découpaient ces bûches et les morceaux qui restaient, les mineurs les mettaient dans leur musette, ça s'appelait des rauzelles. Mm-hmm. Ça servait à alimenter un petit peu, quelques instants, le feu de la cuisinière, oui.
Alors, vous parlez aussi dans votre livre du STO. Tout le monde connaît le service du travail obligatoire. Et là, particulièrement au Garric, plusieurs hommes
tout à fait.
Ont fait partie, sont partis au
J'en ai compté 8, au moins 8. Hein. Voilà. Oui. Alors, le volontariat, cet échange avec la relève ayant peu d'écho, dès janvier 1943, Sauckel demanda à la France 250 000 jeunes destinés au travail en Allemagne. Pour fournir cette main-d'œuvre, le gouvernement français instaura par la loi du 16 février 1943 le service de travail obligatoire, STO. Alors, les classes 40, 41 et 42 furent contraintes de partir pour 2 ans. En janvier 1944, ce fut même la classe 43 qui fut appelée. Et au total, 650 000 travailleurs requis partirent en Allemagne. Il ne s'agissait pas de camps de concentration, mais il s'agissait de camps de travail.
Travail.
Dans ces camps, le travail était quasi permanent. Je crois qu'il faisait 12 heures par jour.
Ils étaient mal nourris.
Ils étaient mal nourris, maltraités également. Hein. Donc les conditions étaient terribles.
Donc les conditions étaient connues ici en France et il y a beaucoup de jeunes qui ont été réfractaires à cette mobilisation en quelque sorte.
Effectivement. Donc ces jeunes qui partaient pour le STO, normalement au bout de 6 mois de travail en Allemagne, avaient la possibilité de prendre une petite permission. Ils revenaient donc chez eux et beaucoup ne sont pas repartis.
Et c'est là qu'ils ont, commencé à créer des maquis.
Tout à fait, parce que ne repartant pas après leur permission, ils étaient recherchés par la gendarmerie, ils étaient recherchés par la Gestapo et par la suite par la milice. Donc leur seule solution, c'était la clandestinité. Et donc c'est de là que les maquis se sont constitués.
Alors, nous allons faire une pause musicale avec un chant qui a été justement le symbole de la résistance dans les maquis. C'est le chant des partisans. Et aujourd'hui, nous allons écouter Yves Montand qui chante le chant des partisans.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue. Nous on crève.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Histoire locale sur Radio Albigès. J'ai invité aujourd'hui à ce micro Jean-Louis Canac, habitant du Garric, près de Carmaux, pour nous parler de son livre « La mémoire des ombres » en hommage à son père, combattant du maquis Le Noir. Alors Jean-Louis Canac, pour expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé avec les différents maquis qui ont ensuite libéré Carmaux, il faut peut-être comprendre ce qu'était la vie politique dans le Carmousin en 1944.
Louis Fieu de la SFIO succéda à Jean-Baptiste Calvignac à la mairie de Carmaux. Louis Fieu fut secrétaire de Jean Jaurès. Un gros différend pesait sur la vie politique du Carmousin entre les partisans de Fieu, maire de Carmaux, et d'Augustin Malroux, qui était le maire de Blaye-les-Mines. Effectivement, le 10 juillet 1940, Fieu avait signé les pleins pouvoirs à Pétain, alors que Malroux avait refusé. Il faut voir quand même que sur 649 suffrages exprimés, il n'y eut que 80 non, dont la majorité était quand même pour Pétain. À Carmaux, Malroux prêchait un petit peu dans le vide. La grande majorité carmousine préférait Fieu. Fieu démissionna de sa fonction le 11 juillet 1941 pour ne pas être obligé de procéder à la dénonciation des communistes, ce qui lui était demandé par la préfecture. Mais il reprit sa fonction de maire le 23 janvier 1942. Et cette nomination par le préfet, donc par le régime de Vichy, fut très mal acceptée par les communistes carmousins. Fieu fut accusé de collaborateur. Et finalement, c'est le point de départ du grand différend qui exista par la suite entre deux grands groupes de maquisards.
Le maquis Le Noir, dont votre père faisait partie,
oui.
Et le maquis donc...
Les FTP.
Des FTP.
Les FTP Moy. Hein. Alors, il faut voir que, si je peux raconter rapidement l'histoire de mon père, pour montrer comment ils ont intégré dans les maquis, mon père, à 18 ans, a passé ce qu'on appelait le brevet industriel. Il a été embauché à Figeac dans les usines Ratier. C'était une usine qui travaillait pour l'aéronautique. Mmh. Et donc, il s'aperçut très rapidement qu'il fabriquait des hélices d'avion pour l'aviation allemande, qui par la suite venait bombarder la France. Il savait également que les classes 43 avaient été réquisitionnées pour le STO. Il faisait partie de la classe 44 et il comprenait que d'ici peu, à son tour, il serait sollicité pour partir en Allemagne. Il savait d'autre part que s'il venait travailler à Carmaux, dans les mines, en tant que mineur de fond, il avait de fortes chances de ne pas partir en Allemagne. C'est donc ce qu'il fit. Il démissionna de Figeac et est venu à Carmaux en tant que mineur de fond. Mais très rapidement, il s'aperçut que le charbon qu'il extrayait n'était pas pour les Français, mais pour les usines allemandes. Alors donc, il décida, en janvier 1944, de quitter son travail de mineur de fond pour suivre son délégué mineur qui s'appelait Noël Sinot et qui fonda le maquis qu'on appela le maquis Le Noir.
Est-ce qu'il vous en a parlé justement de cette partie de son histoire-là ? Il vous en parlait
non,
volontiers ?
Non, très peu. La seule chose qu'il me dit un jour, c'était un vendredi, jour de marché à Carmaux, et il a trouvé un gars qui voulait lui serrer la main, il a tourné le dos, il m'a dit « Tu vois celui-là, il voulait me fusiller ». Mais j'ai dit « Qui était-ce ?» Il m'a dit « Bon, c'était un gars du maquis. » Seulement, il faisait partie d'un autre maquis, qui était le maquis FTP. Mmh. Alors, si vous voulez, en juillet de 1944, le maquis FTP, qui visait bien évidemment la mairie de Carmaux, avait fait en sorte de susciter un mouvement de grève générale. Il avait affiché des affiches, il avait collé des affiches dans les rues de Carmaux, alors que le maquis Le Noir était contre, il avait peur des représailles sur la population civile carmoisine.
Le maquis Le Noir dont faisait partie votre père.
Voilà. Hein. Et donc mon père a fait partie du petit groupe qui avait déchiré ses affiches.
Et donc il était menacé. Et
il a été menacé. Donc, à ce moment-là, oui. Mmh. Voilà. Donc il y avait d'une part ce maquis Le Noir et de l'autre côté il y avait le maquis FTP, FTP Moy.
Alors, donc, Moy, qu'est-ce que ça voulait dire,
main d'œuvre immigrée. Effectivement, il suffit de se rappeler un petit peu de la cité des Bruyères, à Bellevue, dans la commune de Blaye. C'était une cité qui était occupée par des Polonais. Ma grand-mère, par exemple, qui travaillait son jardin, qui vendait ses légumes dans ces cités, me disait « Je vais à la Pologne, je vais vendre à la Pologne ».
Ah, oui.
Il faut se rappeler également de la cité des Hommes,
à Cagnac. Voilà. À Cagnac, oui.
Voilà, donc c'était essentiellement des Polonais qui étaient venus en France dès 1920 et qui également sont venus se réfugier en France lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne.
Donc eux, ils faisaient partie d'un syndicat et c'est pour cela que le maquis des FTP les avait recrutés.
Tout à fait. Donc il y avait également les guérilleros espagnols, essentiellement des communistes. Ils étaient pourchassés par Franco, c'est qu'ils étaient contre ce régime-là.
Alors eux formaient un maquis qui s'appelait Pi Texador.
Oui, il y avait Pi Texidor, oui, il y avait le maquis également Stalingrad, qui était essentiellement constitué de guérilleros espagnols. Alors que les Polonais ont fait surtout partie du maquis FTP Moy. Et ils étaient cantonnés dans les gorges du Vior, à Saint-Christophe en particulier. Et ensuite, les habitants de Saint-Christophe, voyant ces maquisards accompagné de Mongols qui avaient déserté la garnison de Carmaux.
Ah oui, parce qu'il y a aussi, donc vous en parlez aussi
cette désertion.
De façon assez précise hein, dans votre livre, de justement ces Mongols qui, enfin, pour une partie, avaient déserté les rangs allemands.
Ah oui, tout à fait.
pour se rallier et au oui, maquis.
Tout à fait.
Donc la population, elle, ne savait pas de quel bord étaient ces Mongols. Si.
Je pense qu'ils étaient en trop grand nombre. Ils ne parlaient pas français. Ils avaient encore les uniformes allemands. Donc ils ont été très mal perçus par la population de Saint-Christophe, qui a été voir le maire de la commune et qui ont demandé à ce que ce maquis aille vers d'autres horizons.
Et ils sont allés, c'est à ce moment-là qu'ils sont allés à Jouqueviel. À Jouqueviel,
voilà. Donc ils ont quitté Saint-Christophe le 5 août, et le 6 août, il y a eu le massacre à Jouqueviel.
Alors dans votre livre, qu'on n'a pas le temps de détailler davantage, mais vous décrivez, grâce à des témoignages, grâce aux recherches que vous avez faites, la libération de Carmaux par les maquis, et donc aussi vous montrez bien que le Garric avait une place centrale dans les combats qui ont eu lieu pour la libération de Carmaux.
Oui, je vous disais tout à l'heure que Albi avait été occupé en 42, Carmaux en juin 44, mais le Garric fut occupé par une petite garnison, petit noyau d'Allemands, dès la fin 1943. Effectivement, suite aux différents sabotages de la voie ferrée, on ne pouvait plus évacuer le charbon de Carmaux. Également, il y a un tunnel dont les extrémités étaient dynamitées et certainement toutes les semaines.
Il y avait aussi le fameux pont de Coule qui avait été détruit.
Alors, le pont de Coule a été détruit dans la nuit du 16 au 17 août, puisque les Allemands prisonniers finalement dans l'école de la Croix-Haute à Carmaux ont fait appel à des renforts de la garnison d'Albi. Ça, c'était le 16 août. Et c'est ce jour-là qu'ont eu lieu les combats au niveau de la nationale à la Piboulette. Donc, le lendemain, les Allemands de la garnison d'Albi sont revenus sur Carmaux, mais ils se sont aperçus qu'un groupe de maquisards qui s'appelait le groupe Lily avait fait sauter les ponts sur le ruisseau de Coule. Conséquence, pour revenir vers le Garric, ils ont été obligés d'emprunter un autre chemin qu'on appelle le chemin de Carsou.
Et donc là, il y a eu deux violents combats auxquels oui, ont participé donc les maquis, en particulier le maquis Le Noir.
Oui, mais là, ils ont eu l'appui de tous les autres maquis. En tout, il y a eu 14 maquis qui ont participé à ces combats sur un front de 6 km qui allait depuis le puits de Pouzounac, finalement, jusqu'à Blaye.
Alors, donc le temps passe vite, c'est oui, très intéressant. Pour pouvoir en savoir davantage justement sur la vie sous l'occupation au Garric et puis la libération de Carmaux, nous allons donc inviter les auditeurs à acheter votre livre. Alors il faut préciser que votre livre n'est pas vendu en librairie.
Non.
Ah, et qu'il faut qu'ils s'adressent à vous, alors peut-être leur dire que vous êtes dans l'annuaire au Garric,
oui,
Jean-Louis Canac.
Tout à fait, oui. Et d'autre part, le livre est accessible à la mairie du Garric.
Oui.
Et tous les mercredis, j'anime un atelier informatique, toujours dans le cadre associatif. Hein.
Oui.
Et donc, je suis présent dans la salle Lucie Aubrac, la salle des fêtes du Garric. Et là, je peux dédicacer le livre.
Très bien. Ben, merci. Merci Jean-Louis Canac d'avoir accepté mon invitation. Au revoir à tous et à très bientôt.
Merci.
Histoire locale.
Paille les